Allez, bonjour à tous, nouvel audio sur ce Patreon pour faire un petit point politique pour dimanche. Je vais me permettre, bien sûr, comme tout le monde, de vous dire pour qui voter, puisque vous êtes un peu trop bête pour le savoir par vous-même. Non, je tombais à l'instant sur la story d'un trailer qui était plus intelligent que nous, visiblement, et qui... pouvait donc lui nous conseiller en fait quoi faire ce dimanche, puisque nous sommes visiblement trop bêtes pour voter par nous-mêmes. Pourtant, c'est étrange, mais on nous a tous donné un bulletin de vote par personne. Donc peut-être, s'il te plaît, ami trailer, pourrais-tu fermer ta gueule et laisser les gens voter pour la personne qui leur plaît. Puisque sinon, sinon en fait, on arrête tout et tu décides tout seul qui c'est. Alors, c'est bien, il m'a chauffé et j'ai besoin de news comme ça. J'ai besoin de news comme ça avant de partir pour le Lavaredo. Voilà, donc on va bel et bien parler du Lavaredo. Avec le traditionnel, nous allons rester dans la tradition. Traditionnel plan de course. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour le mettre au point. Alors, vous avez plusieurs documents que je vous ai distribué comme ça avec beaucoup de plaisir. Le premier document qui est intéressant à ouvrir, c'est celui qui possède en tête le chiffre 1. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Je l'ouvre en même temps que vous. Et sur ce document, en fait, qui est un Excel, vous avez les différents points de passage. Certains sont des ravitaux, d'autres sont uniquement des points de passage. Et en jaune, ce sont les zones d'assistance. Hein, c'est très important pour les gens comme Marine Quintard qui ont énormément de mal à savoir où est-ce qu'on est assisté, où est-ce qu'on ne l'est pas, et qui, dans le doute, sont assistés absolument partout. Voilà, c'est des petits rappels comme ça qui font du bien. Sur ces points de passage, je vous ai mis la distance, le dénivelé, et puis l'estimation du temps. Alors, l'estimation du temps n'est pas facile à faire, puisque regardez, je suis venu en 2018, et j'ai réalisé une prétestation qui était relativement mauvaise, puisque j'étais sous-entraîné. J'étais très très peu entraîné, je revenais d'une fracture de rotule, et c'était pas terrible. C'est d'ailleurs la seule et unique fois où j'ai eu des crampes sur mon trail, puisque j'étais, encore une fois, je le répète, sous-entraîné, je n'étais pas prêt à faire cette distance, à tenir ces intensités, etc. etc. Donc j'avais terminé ce Lavaredo Ultra Trail en 15h30, et j'avais coté à 733, ce qui était très étonnant, mais vous savez, on était en 2018, donc tout était possible à l'époque. Aiden Hooks avait gagné en 12h16, il avait obtenu la cotation de 926. Et ben, je suis désolé hein, pour l'index UTMB, je suis désolé de faire des rappels comme ça, mais 12h16, eh bien, en 2023, ça vaut 911, et ça ne vaut plus 926. Donc vous avez un écart de 15 points de cotation sur le premier, ce qui est tout simplement aberrant. Voilà. Aujourd'hui, il faut vraiment se battre pour obtenir une bonne cotation, puisqu'on les a rabaissés, ça je le dis depuis 2022, donc arrêtez tout de suite de faire les surprises. Ça fait depuis 2022 que je le dis, absolument tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde ferme sa gueule, c'est que donc, nous l'acceptons. Bref. Vous voyez, j'ai mis des chronos là, Hugo 2018, c'est relativement mauvais. Et ce qu'on voit, c'est que j'étais réellement nul, parce que je suis parti sur les chronos de Clément Chrétien en 2023, Patriote, qui termine 10e en 13h53. Et en fait, moi, j'avais fini en 15h30, donc vraiment, je m'étais totalement effondré. Enfin bref, c'était une année catastrophique. Mais, donc, j'ai regardé un petit peu les temps de Clément Chrétien, qui était intéressant, et ça l'a fait arriver en 13h53. Et puis, en regardant un petit peu les classements des différentes années, je me suis dit que l'objectif, pour moi, serait plutôt autour des 13h15. Et là, je tombe sur le classement de Clément Desilles, qui a mis 13h19. Et je me dis, bah ouais, Clément Desilles, voilà, c'est accessible, on a fait l'UTMB plus ou moins ensemble, ça fait quelques années qu'on a l'habitude de courir ensemble, et donc, ouais, Clément Desilles, ok, pas mal. Je prends ses chronos. Donc je prends ses chronos, je m'aperçois qu'il passe en 1h34 au niveau de Hospital, le premier ravito, et en 1h34, le gars a fait 19 bornes et 800 mètres de dénive. Donc là, vous avez un départ plutôt rapide. Et je compare au premier de l'époque, Jonas Rusi, qui est dans la même course que Clément, qui lui a gagné la course en 12h16, qui était passé en 1h32. Donc vous voyez, au bout d'une heure et demie, il y a seulement 2 minutes d'écart entre ces deux personnes. Et in fine, il y a une heure. Ce qui montre que Clément a eu une dérive beaucoup plus grande que Jonas. Donc Clément est parti un peu vite, tandis que Jonas est parti un petit peu plus en gestion. De là, je fais une petite comparaison sur chaque segment et je fais ma popote avec mes temps de passage à moi. Je vous les ai légèrement surlignés en gris, comme ça ils vous sautent un petit peu aux yeux, pour ceux d'entre vous qui sont feignants. Hop. Et mes temps de passage, je les ai aussi ensuite ajustés avec les sections. Par exemple, si vous prenez Misurina et Rifugio Aranza, vous avez 7,2 km et 590 mètres de dénivelé à faire. J'ai estimé que j'étais capable de les faire en 50 minutes. Alors, je vais revenir là-dessus, puisque c'est des estimations relativement rapides, étant donné qu'à la fin de la colonne, vous tombez sur le chiffre final, et là, vous voyez 12h45. Je vais vous expliquer. Mais, déjà, vous avez compris comment j'ai fait. Donc, j'ai regardé ce que j'avais fait la première fois que je suis venu, je me suis rappelé des conditions désastreuses. J'ai regardé ce qu'avait fait dernièrement quelqu'un plutôt régulier, Clément Chrétien. Voilà, il gagnait à peu près 5-6 places par section. Et puis j'ai regardé quelqu'un qui me correspondait, et j'ai regardé ce que cette personne faisait par rapport au premier. Voilà, je fais la popote, et après les sections, et je tombe sur mon temps. Pourquoi, à la fin, j'arrive sur 12h45, ce qui est très très prétentieux, puisque c'est ce qu'a mis, grosso modo, Baptiste Chassagne et Mathieu Blanchard lors du Lavaredo 2022. Qui était une édition très très bonne, puisqu'elle avait vu la victoire de l'Allemand du team Dynafit, Hannes Namberger, en 11h57, ce qui est le record de la course. Le circuit étant le même depuis 2014 et plus si affinité, on peut vraiment parler de record de la course. D'autant plus que chaque année, les conditions météo sont pas très très différentes. Peut-être un petit peu en niveau température, mais en général, c'est relativement ensoleillé, c'est jamais trop la canicule, parce qu'on est un peu en hauteur. Et cette année, je vais vous en parler, ça s'annonce à peu près pareil sur le papier. Après, il faudra toujours se méfier, on est en haute montagne, et des fois, les météos peuvent se tromper. Alors, ce pacing que je vous propose, que je vais tenter de faire, est relativement rapide, d'accord ? On n'est pas sur une gestion bon père de famille comme l'UTMB, que je réalise chaque année, où j'essaie d'améliorer un peu. Là, au Lavaredo, on va prendre des risques. Alors, oui et non, parce que ça va être difficile, tu vois, avant de passer le premier ravitaillement, là, à l'hôpital, en 1h35, ça va être difficile de juger l'effort. Donc, je vais regarder mon essoufflement. Enfin, je vais ressentir l'essoufflement. Est-ce qu'il est trop fort, etc. Auquel cas, je pourrais me freiner. Je vais regarder le cardio aussi. Est-ce que je passe trop de temps sur le SV2, auquel cas, je pourrais me freiner. Mais dans tous les cas, je passerai un petit peu de temps au SV2. Et quand j'arriverai à l'hôpital, il y a très peu de chances que j'y sois avant 1h35. Je pense qu'il faudrait vraiment insister comme un gros débilos. Et il y a beaucoup de chances, à mon avis, que je passe après 1h35. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, si je passe en 1h40, c'est pas très grave. Donc on va juger par rapport à l'hôpital. Disons qu'1h35, voilà, si on est un peu en retard, faut surtout pas se stresser, parce qu'on est sur un pacing qui nous amène à réaliser 12h45. Donc je verrai à ce niveau-là où j'en suis. Au niveau du passo très crocci, j'ai prévu 2h40, donc ça fait 1h05 de course. Et on voit que Jonas Rusi et Clément Désil avaient mis 1h l'an passé. Donc on verra si je suis capable de faire ça. Et après j'ai prévu un temps de course un petit peu plus rapide au niveau de Federavecchia par rapport à Jonas qui avait mis 27 minutes, Clément qui en avait mis 30. Et moi, j'ai prévu 25, vous voyez, donc voilà. Après, on est toujours à une minute ou deux, hein, c'est jamais très précis. Puis j'ai préféré mettre des chiffres faciles à retenir. Donc, on verra au premier pointage où est-ce qu'on en est. Mais disons que là, je vous ai mis sous les yeux un cas très optimiste. Alors, pourquoi se forcer à aller un petit peu vite et à prendre des risques dès le début ? Alors, encore une fois, quand je dis risques, je ne vais pas faire de la VMA. Hein. Attention, c'est des risques qui sont mesurés. Mais c'est vrai que par rapport à mes ultras précédents depuis 2022, je vais un petit peu moins, je dis bien un petit peu moins, on est toujours dans la nuance, je vais un petit peu moins gérer le début. Je serai un petit peu plus à l'attaque. Encore une fois, c'est une nuance. Je ne vais pas attaquer comme un débilos. Pourquoi je vous propose ça ? Parce que, vous le savez, si vous êtes patriote depuis longtemps, si vous êtes un nouveau patriote, vous allez pouvoir vous renseigner. En septembre 2023, à l'issue du TMB, donc je vous produis un compte-rendu que vous pourrez retrouver sur mon site web, onglet Patreon, retour 2023, et vous avez le retour du TMB. Sur ce retour, je vous disais que bah voilà, en fait j'avais atteint un certain niveau, et que maintenant, le facteur limitant me semblait être la forme physique et la capacité à descendre vite. Tout l'hiver, j'ai développé ces deux points. Donc pour la forme physique, club FFA, cross, éco-trail. À l'éco-trail, j'ai couru relativement rapidement à plat pendant très longtemps, ce qui était chez moi une grande nouveauté. À la pastourelle, j'ai également, malgré une très mauvaise météo, essayé de courir relativement vite, cette fois-ci avec du dénivelé, puisqu'on avait 60 km et 3000 m de dénivelé, et j'ai mis 5h, à peu près 5h45, je crois. Alors si on enlève la boue, on peut sans doute enlever au moins 10 minutes. Bref. Et la pastourelle, en fait, est tout simplement la division par deux du Lavaredo. 60 bornes, 3000, et au Lavaredo, vous avez 120 bornes, 5008. Ensuite, après cette pastourelle, je me suis reposé un petit peu, et j'ai travaillé sur des sorties un petit peu plus longues pour le Lavaredo. Voilà, en réalisant quelques sorties de 4, 5, je ne crois pas que je sois allé jusqu'à 6 heures, je suis pas sûr. Mais ces sorties, je les ai répétées sur plusieurs jours, par exemple 4 jours, voilà, avec 3-4 heures par jour. Et je les ai fait un peu plus toniques. Vous voyez, j'ai essayé, pas forcément le volume, mais l'intensité. On a baissé un peu les curseurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue de cette phase de préparation, nous avons démarré un affûtage. Donc l'affûtage, je rappelle la règle extrêmement simple, c'est je réduis le volume. Évidemment, je réduis aussi un peu l'intensité, mais je vais essayer quand même globalement de la conserver, cette intensité. D'accord ? Enfin, de la conserver. Je vais plus conserver l'intensité que le volume, parce que le volume, je le réduis vraiment drastiquement. Hein. J'étais passé de 140 bornes à 80, et puis ensuite à 60 ou 65. Mais par contre, au niveau des intensités, on avait gardé les fameux sections de 8 minutes en côte. Et ces 8 minutes, je les ai effectuées dans le Malpassant, une côte près de chez moi. Et j'ai mes repères là-bas. Je sais exactement à tel endroit où est-ce que je dois passer, etc. Sur une section d'environ 4 minutes, je passais avec 10, 15, voire même à un moment donné 20 secondes d'avance. Et donc, je retrouvais mes chronos de 2019, quand j'étais très en forme. J'avais enchaîné le marathon du Mont-Blanc et l'UTMB, j'avais eu des déshydratations. Mais après, j'avais enchaîné le record du monde de 24 heures. Et la quatrième place à Cape Town, derrière Nicolas Martin, François Den et Cody Reid. Donc, je me suis dit, putain, là, en fait, Hugo, t'as retrouvé une forme exceptionnelle, celle que t'avais avant le Covid. Après, il y a eu tout un tas de problèmes personnels, etc., qui font que... Mais j'avais retrouvé ça. Opération des yeux, double Covid, voilà, tout un tas de soucis. Et donc, avec toutes ces données, je peux, en toute conscience, partir sur un rythme relativement élevé à ce Lavaredo. Voilà. Ça s'appelle une démonstration mathématique, et c'est fait. Alors, maintenant que ça c'est fait, les temps de passage sont établis entre les ravitaillements, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on appelle Sébastien Diefenbrom, parce qu'il est très intelligent, et on lui demande, en échange d'un petit forfait financier, de nous réaliser le plan nutritionnel, voilà, qu'est-ce qu'on va manger entre les ravitaux, etc., etc. C'est le... document, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Le PC plante en même temps, putain le salaud. Ah si, c'est bon. J'ai cru que j'allais devoir m'énerver et prononcer des injures. Voilà, numéro 2. Ravito Lavaredo 2024 by Sabdif. Nous ouvrons le document, alors il faut zoomer un peu parce qu'il utilise un logiciel satanique. Et pour, il me fournit après un PDF. Alors. Qu'est-ce que fait Seb ? L'intérêt de Sébastien, c'est de vérifier que je consomme. Qu'est-ce qu'il a branlé, là ? Bon, c'est pas très grave. C'est de vérifier que je consomme entre 500 et 600... putain, c'est quoi l'unité? C'est le sodium à l'heure, mais je me rappelle plus de l'unité. Bon, c'est pas très grave. Entre 500 et 700 même. Disons que Seb vérifie que je consomme suffisamment de sodium à l'heure. Il faut faire attention à pas assez ou à trop. Vous voyez, il y a une section où j'en ai peut-être un petit peu trop. D'autant plus que c'est vraiment la section très froide. Misurinar et Fujo Auronsa. Donc je vais pas trop transpirer là. Les glucides à l'heure. J'ai volontairement demandé à Seb de me situer entre 75 et 80 grammes de glucides à l'heure. Et si vous êtes attentif aux courses que j'ai fait précédemment, c'est une moyenne relativement élevée sur un effort de 13 heures. Je ne l'ai jamais fait. Donc ça va être un test un petit peu si je vais être capable de tout bouffer. J'ai été capable de le faire au Templier, qui était un effort de 8h10. Et là, on va essayer de le faire sur un effort de 13 heures. Pourquoi pas sur l'UTMB, passer de 60 grammes l'an passé à 70 cette année. Vous voyez, ça fera une petite différence. Ce sera peut-être appréciable. Peut-être que ça servira à rien, je ne sais pas. Et après, Seb regarde également en fait combien de litres d'eau je bois chaque heure. Alors voilà, il faut être sur un 2000 litres à peu près par heure. Puisque là, nous allons partir à 23 heures dans une température plutôt fraîche, 20, 15, 12 degrés. On verra, mais il fera pas très chaud. Et en fait, il fera chaud à partir de Malga Travenance, donc sur les 4-5 dernières heures. Et encore chaud, voilà, ce sera 8h du mat. Hein. Et on sera arrivé aux alentours de midi, normalement. Et nous serons à des... Jusqu'au Passo Gio, nous serons au-dessus de 2000 mètres d'altitude, jusqu'à 11h environ. Donc, il est très peu probable que nous ayons vraiment chaud. Voilà, c'est pour ça que 500-600 ml me semble tout à fait convenable. D'autant plus que, on y reviendra sur la semaine, j'ai très bien bu cette semaine, je suis très très bien hydraté. D'ailleurs, je vais reboire un petit coup de ceinture. Alors, une fois que Seb me donne ça, avec tout son charabia, moi, je me réapproprie le document, je le fais à ma sauce, et là, nous ouvrons le très très gros document. Donc c'est le numéro 3. Plan de route, Lavaredo. Alors, à ce moment-là, bon, je vous ai mis un petit sommaire parce que ça fait intelligent. Les caractéristiques, voilà, donc c'est pour des petits rappels. Le départ est bien à 23h, il y aura bien 120 km, 5800 mètres de dénivelé. 8 ravitaillements, 4 seulement sont autorisés à l'assistance. Voilà, encore une fois, attention Marine Quintard, si tu te rends sur l'épreuve, tous les ravitaillements ne sont pas autorisés à l'assistance, fais gaffe. Le matériel obligatoire, on vous demande d'avoir un sac à dos qui est choix. Non, je déconne, on vous demande d'avoir un sac. Vous ne pouvez pas faire la course avec une ceinture, vous êtes obligé d'avoir un sac. On vous demande un pull manche longue, alors je ne crois pas qu'ils aient précisé le grammage. On vous demande un collant ou un pantalon. Écoutez, moi, je vais sélectionner le pantalon de pluie pour une raison très simple, c'est qu'il est 30 grammes plus léger que mon collant. Voilà. Et en plus, ce qui va nous inquiéter durant la nuit, c'est pas vraiment le froid, c'est la potentielle pluie et le vent. Donc, le pantalon de pluie coupe tout ça et le putain de Ward bug. C'est pas possible. Il n'a pas planté depuis un an et demi et il faut qu'il plante maintenant. Voilà, c'est génial. Ça m'énerve. Après, on nous demande un bœuf. Ça tombe bien, j'avais prévu de le porter. Donc, il sera autour de mon cou. Des gants chauds et imperméables. Alors, là, j'ai fait un compromis, une concession, puisque j'utilise d'habitude à l'UTMB une paire de gants Salomon Bonatti. Pas parce que j'aime la marque Salomon, j'en ai absolument rien à foutre, mais parce qu'ils sont très légers, ils pèsent 2, 3, 4 grammes. Chaque année, ils coûtent de plus en plus cher, alors que c'est toujours les mêmes. Mais ils coupent vraiment du vent. Donc ça peut être intéressant, ils sont très légers. J'amène quand même une deuxième paire de gants, parce que dans mes souvenirs, en 2018, j'avais eu très très froid au niveau du Refugio Auronsa, et j'étais mal équipé au niveau des gants, et ça m'avait gonflé. Après, j'avais du mal à prendre mes barres, etc. Donc, c'était emmerdant. Donc, je fais le choix délibéré d'embarquer une paire de gants tout à fait convenables, un peu en laine, un peu chaude. C'est les Ecoy, je sais plus quoi d'ailleurs. Ils sont dans ma ceinture avec un petit plastique pour les protéger. Et je verrai si j'en ai besoin ou pas. Puis, je les quitterai à Simabank et plus tard, puisqu'après, le soleil sera levé. Un petit gobelet de 15 centilitres, ça c'est dans le sac. Un litre d'eau, bah, j'ai toujours mes deux flasques, donc pas de souci. Dossard. Visible, il sera sur mon énorme cuisse. couverture de survie dans le sac, le sifflet est accroché au sac, le téléphone portable. Alors, j'hésite à prendre mon iPhone pour faire des superbes stories durant la course, mais en fait c'est un peu chiant, j'ai pas de poche pour le sortir vite, donc je vais voir ce que je fais. Sinon voilà, j'ai un très très vieux Samsung A3 qui ira très très bien, l'écran est cassé donc c'est impeccable, je peux le foutre dans le sac, j'en ai rien à foutre. Veste imperméable avec capuche, bah là j'ai toujours ma veste. Alors je ne prends pas la très grosse veste Adidas, je prends la veste Scott qui est plutôt petite, plutôt fine, parce que même s'il va pleuvoir, ça va pas être très méchant, à moins que la météo se soit complètement plantée. Mais bon, on est là depuis lundi, et à chaque fois qu'il a plu, alors parfois il a plu longtemps, c'est vrai, mais c'était une pluie relativement fine, et une veste imperméable, même légère, suffira. Lampe frontale avec pile de rechange, donc j'ai bien évidemment lampe frontale Gollum, qui est Deutsche Qualität, enfin qui voilà, c'est de la bombe quoi, c'est génial. En plus, avec une batterie, je ferai largement toute la nuit, donc c'est mentionné de prendre des piles de rechange, mais là il y a entourloupe de la part du Duc, puisque je ne prends pas une pile de rechange pour la Gollum, je prends une petite lampe, les Petzl, je sais plus quoi là, toute petite là, qui doit faire 20 grammes, et je scotche derrière une pile ronde CR20-35 ou CR20-32, je sais plus. Et c'est ma lampe de rechange en fait. Ce qui fait que la Gollum, une fois que la nuit est terminée, hop, je la pose au ravito parce qu'elle est un peu lourde quand même. Et après, je finis avec ma lampe frontale de demeurer dans le sac. Une bande élastique. Voilà, ça c'est pour se pendre si jamais vous respectez pas vos temps de passage en tant que bon japonais. Et un billet de 20€ que j'ai planqué dans mon gobelet, qui est plié en deux et qui est dans le sac. Voilà. Le gobelet de 20€, c'est pour acheter à manger au refuge si jamais vous êtes dans une PLS absolument atroce. Alors, je suis pas sûr que ça serve beaucoup, puisque à chaque refuge, il y a un ravitaillement. Mais bon, c'est dans le matériel obligatoire, on prend. Je n'ai pas pesé le billet de 20€. Voilà, je pense qu'il est relativement léger. Donc au départ, nous sommes à Cortina, 23h, on met la musique d'AC/DC parce que bah, ça nous fait kiffer et on part, donc c'est très cool. Je vous ai mis une petite note, je vais consommer de la caféine à raison de 100 mg toutes les 3 heures, soit environ 4 prises. Il est possible que j'en prenne un peu plus toutes les 2h30 et je serai à 5 ou peut-être 6 prises, enfin en tout cas j'aurai 6 capsules sur moi. Voilà. Au départ, j'ai un petit coupe-vent ultra, voilà que je déposerai à la foule en délire. Voilà, la première fille qui me montre ses seins, je lui enverrai le coupe-vent ultra. Non, je déconne. Non, je donnerai un ami. Sur la ligne de départ, on va consommer une petite Bao Kids au chocolat. Parce que j'aime le chocolat. Et, ah oui, putain, faut que je vienne avec un reste de bouteille de ceinture pour la siffler tranquillement dans les 15-20 minutes qui nous séparent du départ, et je jetterai la bouteille plastique sur la tronche de quelqu'un de méchant. J'embarque sur moi deux flasques. Donc les flasques sont toutes constituées de la même manière, sauf quand je les remplirai sur un ravito interdit à l'assistance, Marine Canada, avec 2 grammes de BCAA, 40 grammes de boisson Baou. Alors ça, vous n'y avez pas accès, parce que vous n'êtes pas athlète Baou. Vous y aurez accès l'an prochain, quand on aura défini le tarif exorbitant auquel on vous la vend. Non, je déconne. Elle est d'ailleurs perfectible, cette boisson Baou. Je ne suis pas convaincu qu'il faut la sortir avec cette composition. Je leur en ai fait part. Nous verrons si le Duc est écouté ou pas. Puisque Baou est du haut de gamme, il est hors de question de vendre de la merde. Non, je déconne, elle est très très bien, mais voilà, il y a deux points à améliorer, j'espère qu'ils le feront. Et ils ont dû la développer assez vite pour nous, parce que vous avez des athlètes capricieux chez Baou qui voulaient absolument leur boisson, visiblement ils pouvaient pas vivre sans, ils pouvaient pas la faire eux-mêmes. Alors, je sais pas si parce qu'ils sont des gosses de riches capricieux ou si c'est juste des incapables, j'en sais rien, mais ils pouvaient pas la faire eux-mêmes, il fallait absolument sortir un truc rapidos. 200 ml de ceinture, donc ça j'y mets dans chaque flasque, elle est en train de dégazer gentiment au bord de la fenêtre, et je complète avec de l'eau, voilà, qu'on a acheté à la supérette, parce que nous sommes convaincus ici que salir l'environnement en utilisant des bouteilles plastiques était vraiment une chose intelligente à faire. Non, je déconne. On n'a pas confiance en l'eau du robinet, parce que une fois sur 10, tu vas choper la chiasse. Eh bien, moi, j'ai envie de faire diminuer cette statistique à zéro en achetant de l'eau minérale une semaine avant ma course. Ceux qui sont pas contents, j'en ai rien à foutre. J'embarque également sur moi 3 gels Baou, 2 purées de patates douces, une barre extra olive. Pourquoi aux olives? Eh bien, parce qu'elle est salée. Comme les purées de patates douces. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et une barre extra vanille. Alors, je vais pas tout vous détailler. Si vous avez bien lu le document de Sébastien Diefenbrom, vous avez, et que vous venez de lire ça, vous avez vu que j'embarque sur moi tout ce que j'ai besoin jusqu'à Misurina. Enfin, sauf l'eau, parce que je vais devoir re-remplir, mais toutes mes barres sont sur moi. Et vous allez vous dire, putain, le duc est super intelligent, il a une mémoire d'éléphant, il sait exactement, voilà, la barre vanille, il faut la manger à tel moment, etc. Non. En fait, je n'apprends pas ça. Je prends toutes mes barres sur moi qui sont dimensionnées. Donc là, c'est dimensionné pour Misurina, c'est 4 heures de course. Ouais, c'est ça, 4h05. Et en fait, je ne vais pas forcément suivre pile poil les recommandations de Seb. Parce que quand Sébastien Diefenbrom réalise un plan de course, il est dans son bureau, face à un ordinateur, dans une salle dont la température varie entre 17 et 21 degrés. Moi, je serai dans la forêt, sur les montagnes, de nuit. Peut-être qu'il fera un peu plus chaud que prévu au départ, peut-être qu'il fera un peu plus froid que prévu. C'est pour ça que peut-être que je vais démarrer avec des purées de patates douces, ou peut-être que je vais démarrer avec une barre extra vanille, vous voyez. S'il fait très froid, je vais attaquer plutôt à la barre un peu sucrée. Par contre, s'il fait un peu chaud et que je sens que je transpire, je vais partir sur la purée de patates douces. Et si on est sur un entre-deux, on va partir sur la barre olive. Si on sent qu'on transpire un peu, parce que c'est là où on augmente la dose de sel. Donc avec la ceinture, il y a déjà du sel dans toutes les flasques, ce qui fait que j'ai une dose constante de sel que je vais recevoir. Et si je sens que je transpire un peu plus que prévu, tac, on sort la patate douce. Le but du jeu, c'est que tout ce que j'ai emmené sur moi, je le mange quand même régulièrement. Voilà, une barre toutes les 30, 35, 40 minutes, je sais plus ce que ça fait exactement. Et quand on arrive à Misurina, le sac est vide, il n'y a pas rien à bouffer. Alors, petit bémol, petite note quand même, je me garde cette fois-ci dans la poche du pantalon, enfin du short, je me garde un joker, j'aurai en permanence sur moi un sachet de Haribo. Bon, c'est un tout petit sachet, hein, il fait 20 grammes, il y a 5 Haribo qui se courent après. Parce que si j'ai tout mangé et qu'il y a un petit coup de mou, on sait pas pourquoi, et ben j'ai un petit joker comme ça. Voilà. C'est vrai que je le faisais pas avant, c'est un peu con, voilà. Donc, hospital, vous voyez, j'ai prévu de m'arrêter, remplir ma flasque. Alors, j'ai écrit une flasque NAC, parce qu'en fait, quand j'arrive au ravitaillement d'hospital, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le choix entre de l'eau pure, du coca, ce qui serait purement stupide, et une boisson énergétique fournie par NAC, dosée à 50%. Donc, je prends la flasque NAC. Vous voyez, je fais un choix par élimination. Au Paso Trecrochi. Donc nous, on va descendre d'une montagne et arriver sur ce passo qui est une route bitumée. Là, je remplis ma flasque NAC. Putain, le truc a bugué encore, c'est pas possible, ça m'énerve ça. Heureusement, j'ai mon papier à côté. Putain, j'ai tout prévu. Et j'arrive ensuite à Misurina. Vous voyez, Federavica, il n'y a pas de ravitaillement. Je vous ai quand même mis le... Putain. C'est abominable, cette gorge. Je vous ai quand même mis le temps de passage, les kilomètres et le dénivelé. À Misurina, donc là, je retrouve mon assistance. Alors, pour les 3 premiers points d'assistance, 3 points sur 4, il faut en remercier, et vous pouvez le prendre en note, le neveu de Beignat Marmisol, qui s'appelle Beignat, lui aussi, et qui possède exactement la même voix. Ce qui est tout à fait bluffant, je l'ai rencontré mardi. Et lui, donc avec sa compagne, était là en vacances, alors de base pour un petit peu visiter, bien sûr, se promener et tout ça. Et puis il voulait aussi voir la course de Beignat. Malheureusement, Beignat n'est pas en forme, il n'est pas du tout en forme, ça va pas trop. Et du coup, il vient pas. Mais le neveu, si tu veux, les vacances étaient posées, donc bah, lui, il est venu. Parce qu'il peut quand même randonner dans les Dolomites, et ça c'est très très cool. Et du coup, bah, tant qu'à être là, il va voir la course, et tant qu'à voir la course, il va ravitailler El Duce et son jeune frère. Puisqu'Aubin devrait être pas loin de moi, surtout à Misurina. Et donc, j'ai accès à mon assistance, je repars avec deux flasques. Pourquoi j'ai écrit 400 ml ? Qu'est-ce que c'est si... Flasque. Deux flasques, quoi. Je vais rectifier ça en direct live. Ah, c'est bon, coquin. Flasque, c'est une flasque. Pourquoi j'ai écrit 400 ml ? Complètement débile. Eh oui, il faut enlever ça. Et puis je repars, voilà, donc un seul gel baou. C'est vrai que normalement j'aurais fini en arrivant au gel. Voilà, puis là un peu de tout, etc. Je repars, Refugio Auranza, donc là normalement je prends une flasque. Ainsi ma banquée, on retrouve déjà l'assistance, vous voyez, donc 2h20 entre les deux assistances. Enfin, peut-être un peu plus, hein, je vous cache pas que 6h25 à Sima banquée. On est sur l'estimation de Thibaut Garivier, donc c'est peut-être un peu rapide, on verra. Ou alors c'est lui qui a prévu de se caresser. Je pose la frontale Gollum et je garde la petite sur moi. Vous voyez, c'est malin. Je bois un coup. C'est pour ça que j'ai mis 150 ml de ceinture, mais là en fait, il faut que vous imaginiez que j'attrape une bouteille à la main tendue par Benyat et je bois dedans de manière vigoureuse. Donc je bois ce que je bois, quoi. Et ensuite, je repars bien sûr avec mes deux flasques, 4 gels, donc là, ça va turbiner sec, 2 purées de patates douces, toujours pour augmenter un peu le sodium. Parce que les purées de patates douces Baou par rapport à un NAC, je suis désolé, parce qu'ils sont cités là dans mon plan de course, c'est pas mon sponsor, je suis obligé de leur taper dessus. Alors, je vais leur taper dessus de cette manière, qui est très juste, qui est chiffrée, pour les vérifier. Il y a énormément plus de sel dans les purées patates douces de Baou que dans les purées patates douces de NAC. Voilà. C'est un fait tangible, c'est deux chiffres à comparer, plus, moins, terminé. Pia des lois, je remplis une flasque NAC. Alors là, ça m'inquiète un petit peu parce que je me souviens pas trop de ce ravitaillement en 2018. Malga Travelenanzes, pareil, je me souviens pas trop de ce ravitaillement. Et j'ai prévu une flasque NAC, alors on verra. Peut-être à ce moment-là, pour remplacer la flasque NAC, on fera péter le sachet de Haribo. C'est écrit, hein, mais il y avait pas ça en 2018. Et Colgaline, je retrouve mon assistance. Alors, si je suis là en 10h10, c'est absolument magnifique. Là, j'ai prévu de boire. En plus, normalement, le soleil sera levé. La météo est très très bonne pour le samedi. Et il sera 9h10 du mat. Étant donné que vous n'êtes pas du tout dans une forêt, potentiellement, vous avez un peu chaud. Après, on est quand même à 2000 mètres d'altitude. Donc, il faut relativiser. C'est comme si vous étiez à la Flégère, à Chamonix. Voilà, vous n'allez pas crever non plus. Je repars avec mes deux flasques, deux gels, une purée de patate douce, à direction Le Paso Gio. Donc là, on passe au Refugio Auranza. Et au Paso Gio, deux flasques, un gel, et ça filoche jusqu'à l'arrivée. Je vous ai mis un petit plateau de favoris, sachant que Tom Evans, le coquinou, s'est inscrit il y a une semaine ou deux. Et il n'avait pas participé au championnat d'Europe. Il était inscrit au championnat d'Europe. Il avait fait un DNS, Do Not Start. Il n'était pas parti. Je ne sais absolument pas pourquoi. Parce que l'an passé, j'avais fait un peu des vannes sur Instagram sur son sponsor Red Bull. Et il l'avait assez mal pris. Il m'avait envoyé un message pour me signifier que ça l'avait pas fait rire, en tout cas. J'avais essayé d'expliquer ma blague en anglais, ce qui est une mauvaise idée vu que je ne maîtrisais pas l'anglais, il n'a pas compris, il m'a bloqué. C'est pas très grave. Andreas Reiterer, qui a de solides références au Lavaredo, puisqu'il a abandonné les trois dernières années. Bon, peut-être cette année, il arrivera à aller au bout. Quand on voit sa gestion de course l'an passé, on peut en douter. C'est quelqu'un qui courait largement plus vite que le record de la course. C'est rigolo pendant 5-6 heures, puis après il abandonne. Thibaut Garivier, qui... Mon grand favori est Tom Evans. Après, je sais pas pourquoi il est pas venu aux Europes et pourquoi il vient ici. Voilà, l'an passé, il gagne quand même la Western States. En 2022, il fait quand même 3e de l'UTMB. Quelqu'un qui court très vite. Voilà, c'est quand même mon grand favori. Thibaut Garivier, je le vois un cran en dessous parce que... Reiterer, je sais pas, c'est une espèce de joker. Thibaut Garivier, je le vois un peu en dessous de Tom. Parce qu'il a quand même fait la Maxi Race. Il était déjà là au Trail du Ventoux, au Championnat de France. Ça fait beaucoup, je trouve que ça fait beaucoup. Après, j'ai l'impression qu'il s'est pas mal reposé quand même depuis la Maxi Race. Et c'est quand même quelqu'un de très fort. Mais je vois plutôt Tom Evans. On a Hannes Namberger, alors qui est ici depuis longtemps, au moins une dizaine de jours, si j'en crois à son Strava, bien sûr. Logiciel espion. Ouais, c'est le recordman, en 11h57 en 2022. Donc, Moi, je verrais bien un podium un peu comme ça, tu vois. Tom Evans, Thibaut Garivier, Alain Snambergier, ce serait un très joli podium. Jean-Philippe Tchoumi, alors pour moi, il est un cran en dessous. Il est très très fort. Hein. Mais l'an passé, il abandonne l'UTMB. Ça, en fait, ça lui avait coûté toutes ses sections. Il faut courir, il faut relancer. Lui, il aime pas ça. Jean-Philippe, il aime les terrains techniques. Les terrains abrasifs. Jean-Philippe, pour qu'il soit heureux et épanoui, il faut l'envoyer sur une échappée belle, sur un grand raid de La Réunion, sur un truc de sagouin, là. Poucapel, on est sur une déception systématique depuis de longs mois. Après, attention, la légende ne meurt jamais. Attention à la résurrection de Poucapel. Mais pour l'instant, je reste sur mon podium Tom Evans, Hannes Snamberger et Thibaut Garivier. Et Lionel Christian Manol, alors c'est le Roumain qui en fait vit en Espagne depuis peut-être même sa naissance, je sais plus. Coureur très bizarre. Très très bizarre. Il nous a réalisé une performance pas top au championnat d'Europe à Annecy, mais c'était une course de 5 heures, donc relativement rapide pour lui. Là on retourne sur un ultra. Voilà, Christian Manolet, c'est des abandons, des réussites, c'est très bizarre, un peu comme Andreas Reiterer, donc je sais pas. Jonas Rusi, qui est sur une saison 2024 pas top par rapport à son niveau, puisque au Chianti, il arrive 30 secondes devant Aubin. Ça, Aubin ? 30 secondes, ouais. Il était rôti. Lui qui termine quand même 8e de l'UTMB en 2022, voilà, quelqu'un de très fort, qui gagne la course l'an passé en 12h16. Donc attention à lui. Mais voilà, il a aussi abandonné en Alsace cette année. C'est, voilà, saison bizarre pour Jonas. Est-ce qu'il va s'y remettre ? André Rodriguez. Alors, il a absolument aucune référence sur les efforts de 100 miles. Bon, ok. C'est un portugais, je ne le connais absolument pas. Pere Aurel. Très vieux coureur espagnol. Solide. Alors, Benet Marmisol, je l'ai rayé parce qu'il prend pas le départ. Luis Ruiz Oller, lui il termine dans le top 5 l'an passé, donc méfiance. Wu Hua Zhang, très très bon coureur chinois. Attention, David Haus, alors je suis très surpris de sa cotation à 864. Je sais pas trop s'il est là, si tout va bien, enfin je suis pas quelqu'un avec qui je discute trop, donc enfin même pas du tout. David Haus. Yannick Noël, alors là attention, Yannick Noël, moi j'aurais tendance à le mettre dans le top 5, voire à rivaliser avec Thibaut Garivier. Dans un très bon jour. Je le vois très proche du podium. Ouais, coureur costaud, discret. Il a pulvérisé Volvic 110 km. En fait, il n'avait pas de concurrence, mais il a fait concurrence au chrono, puisqu'il a fait 110 bornes et 3500 mètres de dénivelé en 9h25, ce qui est tout à fait prodigieux. Il a mis une fessée à Sylvain Court à l'Endurance Trail des Templiers. Voilà, c'est un... J'ai envie de dire un chasseur de primes, puisqu'il a pris 2000 euros au Templier et 5000 à Volvic. Mais efficace, hein. le gars est costaud, 12e de l'UTMB en 2021, il m'avait doublé sur la fin de parcours, il était allé très très vite le salopard, et Ward a décidé de rebugger exprès pour me faire chier. Vous avez Arthur Joyeux-Bouillon, qui est là aussi à mon avis un très très bon client pour le top 5, lui qui s'est très très bien réentraîné après son entorse à Madère. D'autant plus que le Lavaredo étant très très peu technique, je pense qu'il n'y a pas de souci pour l'entorse, il doit être réparé d'ailleurs. Donc je le vois très très bien dans le top 15, tu vois. Je le vois bien batailler avec Yannick, top 5 pardon, 4e et 5e, là les deux French runner. Voilà, après on a Aubin Ferrari, qui va nous faire une belle course, mais nous, je vois pas trop comment on pourrait descendre en dessous de 12h45, 13h on est déjà content, 13h15 on est encore content, au-dessus bon ça fait chier. On verra. Voilà, ça doit faire du top 10, ça. Scott Hooker. Alors, je sais pas trop dans quel état de forme il se présente, mais il est rarement mauvais, l'animal. T'es juste derrière toi, Aubin Chianti ? Ouais, juste derrière Aubin Chianti, salopard. Jorg Piazza. Alors, lui aussi, il est pas connu, mais il était déjà là l'an passé. Il me semble qu'il finit avec Luis Ruiz Oller. Ils étaient 4 et 5, les deux Kiki, là. Ils couraient en 13 heures, hein. Attention, ils ont couru en 13 heures. Tobias Geyser, je le connais pas. Simone Corsini non plus. Anthony Costa. Ah, Anthony Costa. Patriote, Anthony Costa. Et ouais, la classe. Qui était globalement inconnu jusqu'à ce qu'il réalise une troisième place au Mute. Et si vous ne le connaissez pas, c'est le médecin présent au Grand Col Ferret, à l'UTMB. Voilà, un petit gars là, sympa, jeune, qui vous encourage. C'est le médecin du Grand Col Ferret, à l'UTMB. Et il court très très bien, puisque troisième du Mute, juste derrière Martin Kahn, t'es pas très très loin de Martin. Un peu loin de Ben Diman, mais bon, c'est Ben Diman quand même. Ricardo Borgiali, alors ça va lui faire un peu long à Ricardo, mais pourquoi pas, voilà, ça fait partie des gens sur qui je mettrai une petite tape dans le dos quand je les dépasserai, j'espère. Et là, on a un Français très intéressant, c'est Gauthier Bonnecarrière. Alors, Gauthier n'a... Attendez, je vais regarder sa cote pour pas raconter de conneries, mais j'avais parlé de lui dans une revue de presse, et il me semble que Gauthier, en fait, n'a jamais fait de très grosses courses, mais... il a déjà fait des ultras à bon niveau. Alors pourquoi j'avais parlé de lui? Ah oui, il était 3ème à Snowdonia. Il était aussi 4ème au Trahissant Andorra l'an passé. 4ème place derrière Jean-Philippe Tchoumi, Ben Diman et Pau Capel. Bon, il était à 37 minutes de Pau Capel et à 50 minutes de Jean-Philippe Tchoumi. Mais justement, c'est à peu près le même effort, à peu près 13 heures de course. Donc, à mon avis, Gauthier Bonnecarrière, c'est quelqu'un qui va s'approcher des 13 heures de course. Il est très très possible que Gauthier court un long moment autour de moi, voire même, voilà, s'il est un peu plus en forme que moi, bah, qu'il me batte. Voilà, je pense que c'est quelqu'un avec qui on va discuter. Peter Westorp, the Swedish guys. Peter, je l'ai vu ce matin. Il va bien. Alors le problème de Peter, c'est qu'il est retourné vivre en Suède. Avant, il vivait à Chamonix. Chamonix ! Et comme il me disait ce matin, bah, le problème de la Suède, c'est que c'est plat. Donc il n'est pas ultra chaud du dénivelé. Mais bon. Antoine Lambois-Martin. Alors j'ai eu le plaisir de le voir deuxième à mon Trail Nivolé-Rovar. C'est un coureur solide aussi, qui a pas mal de bonnes références. Un petit peu comme Gauthier Bonnecarrière. Je pense qu'il devrait courir assez longtemps avec moi. Christian Modena, Roberto Mastrotto, ça fait partie des Italiens qu'on va battre. Ivan Rastovec, je connais pas. Antonin Marikai, alors. Antonin Marikai, que j'avais battu au Grand Trail du Lac 2022. J'avais mis un bon quart d'heure, 20 minutes. J'avais bien battu Antonin. Une bonne fessée. Il a beaucoup progressé depuis. Il a fait un très très belle endurance trail des Templiers. Attendez, il finit juste devant Mathieu Delpeux, je crois. Juste devant ou juste derrière? Alors attendez, je vais regarder un petit peu ça. Sa cote aussi, parce que je vous fais tout ça de mémoire. Allez, j'en profite. Voilà, je vais regarder vite fait sa cote. Marikai. Ouais, il a plus que moi, le bâtard. Il a fait un très bon championnat de France. Championnat de France, 13ème place, très costaud. Hein. Endurance Trail, non, il était 5ème. Il était juste derrière. Salut, c'est Mathieu Delpeche. Il était juste derrière Mathieu. Ah ouais, putain, 20 secondes. 19 secondes. Et par contre, au Trail Drôme, ouais, il était 13ème. Donc une très bonne place. Il avait doublé. Ah, il était juste derrière Pierre-Arnaud Bourguignol et juste devant Théo Détienne, juste devant Pierre-André Anizan qui va courir le 50 km demain. Ouais, costaud. Bah, et bon, il faut le battre, là. Jean-François Pugin, tiens, ça va me faire plaisir. Je l'avais vu un peu à l'aigueur l'an passé, puis bon, malheureusement, il avait abandonné, je sais plus ce qu'il a eu. Kakuyovic, je connais pas. Hugo Ferry, bah, c'est moi. Morgan Pillet, bon, voilà. Henri Hofer, Daniel Calandri, Mathias Dolchbauer. Voilà, je vous ai mis les 38 cotes, les 38 index UTMB, pardon, qui sont supérieurs à 800. Le parcours, c'est toujours le même, je l'ai vérifié depuis 2017. Je pense que c'était déjà le même quand Anton Krupika a gagné en 2014. À l'époque, on gagnait en 12h40, maintenant en 11h57. Et le lien GPX, je vous le donne, il est là, c'est le 5. Et je vous ai mis le petit parcours sur Trace de Trail. Et vous avez donc le lien à l'issue de ce document. Maintenant que tout ça c'est fait, je vous ai mis aussi un document qui s'appelle A plastifier. Donc c'est un document que je plastifie, je découpe ensuite les petits carrés et je les emmène sur moi, comme ça j'ai mes temps de passage en permanence. Ensuite. Ah oui, pour le ravitaillement, le dernier ravitaillement avec assistance sera effectué par Altra au niveau du Passo Gio. Puisque sinon, ça faisait beaucoup de routes au neveu de Beignat, ça m'embêtait un peu. Donc, j'ai réquisitionné deux dames d'Altra. Il faut que je leur donne le truc demain pour qu'elles me ravitaillent au Paso Gio. Ensuite, nous avons un dernier petit point à faire. Non, deux derniers points. C'est au niveau des vêtements. Alors, effectivement, les vêtements, vais-je partir avec un slip ? Les vêtements, j'ai hésité sur deux choses. Donc, en plus du matériel obligatoire, c'est ce que je porte sur moi, en fait. J'ai hésité au niveau du short et au niveau du t-shirt. Puisque, globalement, il faut que je cours avec des maillots Altra pour qu'on voit un peu la marque. Tu vois, c'est quand même le but du jeu. Et les maillots Altra sont évidemment des maillots techniques, mais ne sont pas des maillots qui sont comme des, vous voyez, des t-shirts qui collent un peu à la peau, des maillots un peu thermiques, comme le propose Brobeck. Donc je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, est-ce que je mets un petit maillot qui colle un peu à la peau, la Brobeck, et par-dessus le t-shirt Altra ? Je me suis dit que j'allais avoir un peu chaud. Parce qu'au début, on effectue les premiers kilomètres, en fait, sont plutôt en basse altitude. Donc Cortina, on est à 1250. On va monter quasiment à... Ouais, on va monter à 2000. On va courir un peu à 2000. Mais là, c'est le début de course. Il est assez rapide, assez tonique. Donc je pense pas qu'on aura froid. Surtout qu'on est encore dans une forêt à ce moment-là. On est vraiment à la limite de la forêt, mais on est encore dedans. Et après, on descend. On redescend à 1300, 1400 mètres. Et là, on y reste un long moment. On monte un petit peu vers 1008. Mais franchement, c'est assez léger. Et de mémoire, en 2018, j'avais pas froid du tout. Et après, on descend, on redescend, donc on repasse encore à 1200 mètres. Et pendant 4 heures, hein, jusqu'à Misurina, normalement, on est vraiment bien, on n'a pas du tout froid. Donc j'ai peur d'avoir chaud, en fait, avec le maillot qui colle au corps, thermo, on va dire, et le t-shirt par-dessus. Donc je me suis dit, je pars qu'en t-shirt. Éventuellement avec des manchettes et un buff. Ah oui, je vais porter les manchettes du Carmi, bien sûr. Et puis le petit buff. Comme ça, je peux ajuster un peu la thermorégulation. Et comme ça, quand j'aurai un peu froid, donc après Misurina, en montant sur Refugio Auranzo, là, je vais mettre la veste, en fait. Veste qui va couper le vent, qui va faire que la chaleur de mon corps va rester, etc. etc. Donc, j'ai trouvé ce compromis qui m'allait bien. Mais je me tâtais, tu vois. Et puis la veste, quand le soleil sort, elle va dans le sac, et là, je finis en t-shirt, éventuellement, je remonte un peu les manches en le mettant en mode débardeur pour terminer. Et ça, mais vite, au début je me suis dit, je vais partir avec un maillot, il y a le maillot manche longue aussi d'Altra, c'était possible. Mais je me suis dit, en fait c'est pareil d'avoir les manchettes quoi. Donc ça sert à rien, et puis après il aurait fallu que j'enlève le maillot manche longue pour mettre un débardeur. Et ça m'aurait fait enlever le sac, remettre le sac. Tu perds 2 minutes quoi dans l'affaire. Ça, plus les ravitaux, plus machin, plus truc, je me suis dit, il n'y a pas besoin. Après au niveau du short, j'ai hésité entre deux. Et autant sur le t-shirt, vous voyez, j'ai fait un choix peut-être audacieux, hein, j'ai peut-être regretté un petit peu, d'avoir un t-shirt entre guillemets flottant, mais que je vais pouvoir comprimer grâce à la veste, hein, parce que la veste, quand vous la mettez par-dessus le sac, vous ressemblez à un petit saucisson, hein, donc vous n'avez pas très... vous êtes bien capitonné, quoi. Et au niveau du short, en fait, je me suis dit, il va faire assez chaud le samedi matin, le vendredi soir, je vais bien courir, donc je vais avoir assez chaud, finalement, j'aurai froid que... au niveau du refuge, là, pendant une heure et demie, le début de la descente aussi. Et après, ça va aller. Et donc, j'avais pour ambition de partir avec le mini-short Altra, qui est le short des années 2022-2023 que nous fournissait Instinct, qui était badgé Altra. Et puis cette année, on a des shorts Altra, mais qui sont réellement faits par Altra. Donc, c'est une grande avancée de la marque, un petit peu comme Oka, hein, ils font exactement pareil. Et finalement, je vais choisir de courir avec le cuissard Altra, donc de cette année, qui est un petit peu chaud, et donc avec un caleçon normal en dessous, quoi. Parce que ce cuissard, en fait, est assez long, ce qui fait que tu peux l'ajuster, hein, parce que vu que j'ai une très grosse cuisse, je peux le remonter, il tient en haut, et puis je peux le redescendre quasiment jusqu'au genou. En fait, je me suis dit, je vais le monter un peu au départ, comme ça, ça va, il fait assez frais, et par contre, quand je serai sur les hauteurs et qu'il y aura un peu de vent, le truc, je le descends, tu vois, au niveau des genoux. Enfin, juste au-dessus. Comme ça, j'ai les jambes plutôt au chaud. Et c'est un bon compromis. Et après, quand il fera soleil, je tire dessus et je le remonte. Donc voilà, au niveau du vêtement, je pense qu'on a un bon compromis entre risque, légèreté et efficacité. On est pas trop mal. Ça me semble pas trop mal. Et encore une fois, j'aurai aussi sur la tête en permanence une casquette qui m'est imposée par Nolio, mais qui me... qui me gêne pas trop parce que avec la casquette, la frontale tient parfaitement bien. Ouais. Vous mettez la casquette à l'envers, tac, la frontale par-dessus, là on est bien. Et bah, quand il fait soleil, la casquette, voilà, se tombe sous le sens. Donc en fait, elle me sert la nuit et le jour. Pas de problème. Et en plus, la casquette, du coup, vous pouvez la descendre un peu, il suffit de desserrer le clip. Et elle descend un peu sur le front et ça vous protège la nuit. Et après, bah, j'ai mon buff pour protéger le cou. J'ai les manchettes pour les bras. À la veste par-dessus. Et mes gants, donc mes deux paires de gants accessibles dans la ceinture via un... via un... petite poche, poche zippée. Voilà. Voilà pour le petit point vêtements. Encore une fois, bah, c'est une supposition via les données météo qu'on a. Et qui, je l'espère, ne changeront pas trop. Données météo qui nous épargne la pluie hein, pour l'instant. La pluie tombe de 20h à 22h. Et le départ étant à 23h, on est peinard. Mais on l'a bien vu à Samoin, des fois la pluie, cette grosse pute, elle se décale. Et ça fait chier. Allez, juste pour finir, je vais vous parler de ma semaine à Cortina, rapidement. On est arrivé le lundi après une journée de voiture. 9 heures de voiture parce que il y avait des travaux absolument abominables partout. Sur toutes les autoroutes, ça c'est un style. Hein. En Italie, on adore faire des travaux sur l'autoroute, c'est infernal. Donc Waze vous dit 7h07, le lendemain vous prenez la route, vous mettez 9h. Parce qu'on s'est arrêté manger, parce qu'on s'est arrêté pisser, parce qu'on s'est arrêté boire un café. Enfin voilà, on fait pas mal de pauses pour que le trajet soit confortable. Mais porte à porte, on était un bon 9h. Donc le soir, on a absolument rien branlé, évidemment. Le mardi, gros déblocage. Le mardi, j'ai effectué un gros déblocage. C'est vrai que c'est sans doute le déblocage le plus intense que j'ai fait à l'approche d'un ultra. Il était parfait, j'étais tout à fait en forme comme il le fallait. D'autant plus que samedi dernier, j'ai déjà fait un petit, quand même une demi-heure de tempo. Et derrière, j'ai mis 2 fois 5 minutes un bon seuil en côte. Donc on est doublement débloqué là, tu vois, on est bien. Je pense que j'ai réalisé un très bon affûtage par rapport à tous mes autres trails. Très très bon affûtage. Donc le mardi c'était ça, après évidemment l'après-midi on se repose. On est allé acheter du café parce qu'il nous manquait ça, c'était intolérable. J'en ai profité pour manger une glace parce que c'est quand même le style en Italie, tu vois. Il faut épouser les traditions aussi. Elle était très bonne et elle est à 50 mètres après la ligne d'arrivée. Ce qui fait que samedi, j'irai me goinfrer en fait de glace. Voilà, je m'en foutrais absolument partout. Je prendrai des très très gros pots, je les prendrai même plusieurs fois. Le mercredi, on a fait une petite randonnée avec Lionel, bien sûr, fidèle patriote. Petite randonnée de 2 heures, peinard. Sous la pluie d'ailleurs. Donc le matos de pluie a été testé une énième fois, tout va bien. Et ce matin, jeudi, puisque je vous livre l'article Patreon du vendredi avec un jour d'avance, parce que j'ai envie de vous donner un peu à manger avant le départ de la course, voilà, que vous soyez chaud et motivé. Et ce matin, j'ai effectué un petit run avec Aubin d'une demi-heure, que j'effectuerai demain matin encore au réveil, comme ça, paf, j'irai courir une petite demi-heure, pour le plaisir en fait. Pour le plaisir et puis pour se mettre en route, j'aime bien, parce que du coup, demain, je vais me lever, évidemment, très tard, ce qui pour moi se traduit par du 7h30, ça s'appelle une grasse matinée chez Hugo Ferrari. Et je vais faire des mobilités articulaires. Ensuite, j'irai courir une demi-heure. Très cool, très zen. Plus zen que ce matin, je pense. Vraiment, juste être dehors, quoi. Plaisir. Courir, les jambes qui trottent. Et après, je prendrai un petit déjeuner tardif. Un petit déjeuner, voilà, que je vais garnir un peu. Un repas un peu tardif, parce que nous allons aller chercher le dossard à 11h30. Il va falloir aussi donner le sac Passo Gio à Altra. Je vais en profiter aussi pour ce bordel. Je vais en profiter aussi pour voilà, j'avais 2 personnes à voir au dossard. Et puis l'après-midi, nous allons absolument rien branler. Alors faire une sieste, je n'ai jamais fait de ma vie la sieste, donc vous doutez bien que ça ne va pas arriver aujourd'hui. Mais se reposer, oui bien sûr, pourquoi pas, sera encouragé. Et puis un bon repas, un peu tôt à 19h. Donc sans doute pas de goûter, puisque c'est bon, on va déjà se gaver toute la journée. Plutôt un repas du midi un peu tardif, tu vois, sur les 13h, un peu poussé, un peu allongé, un peu en mangeant bien, quoi. Bon repas de midi. Et pareil le soir à 19h, un bon bon repas encore. Mais on aura largement le temps de digérer jusqu'à 23h. Voilà. Voilà pour le programme de la semaine, en fait, qui est placé sous le signe du rien branlage. Ce qui est évidemment une condition idéale à la réussite d'un effort qui va durer 13 heures et qui surtout va avoir la particularité d'être une nuit blanche, en fait. Ça, c'est vrai que j'ai l'impression que plus personne n'y pense. On parle quand même d'une course à pied de 120 km sans dormir, avec une nuit blanche. C'est quand même, quand on y pense, vous êtes chez vous, là, vous êtes chez vous le samedi soir. Vos amis arrivent, vous faites un apéro, l'apéro dégénère, vous prenez une biture, ça finit en boîte, je sais pas quoi, etc. Puis en fait, vous dormez pas, quoi. Vous dormez pas, et le dimanche, vous êtes éclaté. Mais là, c'est pareil, sauf qu'on va courir tout le long, à des seuils relativement élevés. Voilà, écoutez, je me suis étouffé, ça veut dire que c'est la fin du podcast. Je vous remercie déjà pour tous les messages d'encouragement que vous allez me donner. Évidemment, je ne vais pas répondre merci à tout le monde parce que ce serait grotesque de réaliser ce genre de copier-coller. Mais ils me feront tous plaisir, bien sûr, bien entendu. Ils seront tous lus parce qu'à chaque fois, j'ai une notification sur mon téléphone. Voilà. Et bah, comme d'habitude, on espère que tout va bien se passer. Et comme d'habitude, tout se passera pas comme on a prévu parce que c'est de l'ultra et il faut en être conscient. Allez, hop, je vous poste ça. Et Inch'Allah. Voilà.